Dis-nous. Bonjour à toutes et à tous, il est 17h et on se retrouve le mercredi 8 avril 2026 en direct pour 1h30 de partage de livres. 1h30 jusqu'à 18h30 à écouter au fil des pages sur Radio Libertaire. Aujourd'hui, Frédéric, Elisabeth, Dominique, Francis et notre invitée Claudine Nedelec pour nous parler de son livre « Argot et littérature au Moyen-Âge » Jusqu'au Misérable, publié aux éditions Le Temps des Cerises en 2025. En plus de nous écouter, n'hésitez pas à nous écrire, librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e, et on peut aussi utiliser le blog du groupe Commune de Paris. Alors là, une grande diversité de thèmes et de livres, je dirais comme d'habitude, et puis un temps fort, la présentation du livre de Claudine Nedelec. Pour la première partie, pour alimenter le débat, Elisabeth nous propose un livre sur la place des femmes dans la préhistoire. On parle toujours des hommes préhistoriques et des femmes. Laissons la parole à Elisabeth. Aujourd'hui, Elisabeth va nous parler d'un livre sur la préhistoire des femmes, écrit par Anne Augereau, paru aux éditions de La Découverte. Alors, de quoi s'agit-il ?
Eh bien, la question qu'on peut se poser est la suivante. Et si la domination masculine ne datait pas de l'invention de l'agriculture, mais de bien plus loin, de Néandertal ou de plus loin encore ? C'est la question que pose Anne Augereau dans « Une préhistoire des femmes » publiée aux éditions La Découverte en février 2026. Elle est archéologue, spécialiste du néolithique, et elle propose une vision renouvelée de la place des femmes dans la préhistoire, du paléolithique moyen au néolithique. Elle s'appuie sur une analyse minutieuse des outils, des sépultures, des parures, et sur ce que les squelettes et l'ADN ancien nous apprennent. Pour Augereau, il s'agit de déplacer la question des origines de la domination masculine. On associe souvent les inégalités de genre à la sédentarisation néolithique. Elle, au contraire, en cherche les racines plus loin, dès le paléolithique. Dès le prologue, elle annonce son ambition. Pour faire évoluer la société, il faut partir de bases solides et non biaisées. Son grand mérite est là. Elle ne tire jamais de conséquences non prouvées des observations. Elle observe, compile et précise quand l'état des connaissances ne permet que des hypothèses. Elle reconnaît que les données sont souvent insuffisantes pour dresser un constat réaliste d'une époque aussi lointaine. Alors, pour comprendre ce que sa thèse a de novateur, il faut mesurer le poids des idées reçues qu'elle combat. Depuis plus d'un siècle, la question des femmes préhistoriques a été instrumentalisée. Dès le 19e, Barhoeffer défend l'idée d'une gynécocratie primitive, un pouvoir des femmes fondé sur la maternité. Mais pour lui, c'est un stade archaïque. Le patriarcat représente une évolution nécessaire vers la raison. Brifaut, quant à lui, adopte une position opposée. Le patriarcat est une construction brutale qui a détruit un ordre naturel maternel. Mais en fait, cette vision est aussi profondément sexiste. En réduisant les femmes à leur instinct maternel, Brifaut les enferme dans la biologie. Entre ces deux figures, certains d'entre vous se souviennent peut-être que nous avions présenté un livre de Auguste Bebel dans notre édition, La femme et le socialisme. Bebel voyait dans le socialisme le moyen de restaurer l'égalité perdue d'un hypothétique matriarcat primitif. Augereau montre que cette vision, malgré ses bonnes intentions, restait prisonnière des mêmes présupposés. Cette tendance à projeter sur le passé les désirs du présent se prolonge au XXe siècle avec Maria Gimbutas et ses théories sur un âge d'or matriarcal. Augereau réfute vigoureusement cette approche fondée sur des données surinterprétées. Et c'est précisément pour sortir de ces biais qu'elle retourne aux sources, aux os, aux tombes, au génome. Et elle fait émerger trois constantes observées partout et à toutes les époques. D'abord, une division sexuée du travail dès Néandertal. L'analyse des ossements suggère des activités différenciées. Les hommes présentent une forte asymétrie musculaire du bras droit, signe d'activités répétitives comme lancer une sagaie, tandis que les femmes montrent des signes d'activité avec les deux mains, notamment elles préparent les peaux. Deuxième constante, un monopole quasi masculin des armes létales. Les armes de chasse et de guerre, pointes de flèches, harpons, sagaies, sont presque systématiquement retrouvées dans les tombes masculines. Ce contrôle des moyens de violence leur confère une position dominante dès le paléolithique. Enfin, troisième constante, un contrôle ancien de la reproduction, lisible dans les données géonomiques. Sur 250 000 ans, les femmes procréent systématiquement bien plus jeunes que les hommes, dès l'adolescence et de manière très rapprochée. Cette précocité suggère une pression sociale visant à exploiter au maximum leur période fertile, bien avant toute sédentarisation. Cette rigueur va se retrouver dans toute la structure du livre, qui suit un fil logique en six grandes parties. L'autrice s'intéresse d'abord à l'enfance pour traquer les possibles différenciations entre filles et garçons, nourriture, soins, apprentissage et jusqu'au statut des enfants dans la mort. Mais elle reconnaît que ces données sont ténues, autant de questions plus que d'affirmations. Viennent ensuite les chapitres sur le mariage et la maternité, où elle explore les grossesses à répétition, mais aussi la circulation des femmes entre les groupes. Cette tendance à la patrilocalité fait de leur mobilité un levier social de domination. Contrôler les femmes, c'est aussi contrôler leurs déplacements. La troisième partie aborde, quant à elle, l'alimentation et la santé, montrant comment le tournant agricole a été particulièrement difficile pour les femmes, avec des pénuries et des carences spécifiques. La partie suivante sur le travail occupe une place centrale avec des titres évocateurs, comme Néandertal, ses bras, ses cuisses et sa troisième main, ou l'homme chasseur et la femme collectrice. Ceci bouscule nos certitudes. Viennent enfin les chapitres sur la violence, l'identité sociale, le pouvoir et les statuts, où elle examine les indices concernant d'éventuelles femmes chefs, chamanes ou artistes. Mais elle ne cède jamais à la surmédiatisation. Sa thèse est claire, aucune affirmation ne vaut sans qu'elle soit fondée sur des données solides. Alors, que retenir ? La force de ce livre et de nous amener à regarder notre passé sans œillères et nous rappelle une chose essentielle que le sociologue Christophe Darmanjat exprimait récemment. Une institution peut être très ancienne sans être éternelle. Comprendre l'origine d'un phénomène, ce n'est pas s'y résigner. C'est au contraire se donner les moyens de le transformer. Voilà peut-être la plus belle leçon de ce livre.
Alors donc, les références, c'est Anne Augereau, une préhistoire des femmes aux éditions de La Découverte, et c'est sorti cette année en 2026. Merci.
Après l'intervention d'Elisabeth, vous avez pu entendre un petit morceau de la bande originale du film La Guerre du Feu. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, et l'émission continue.
Et oui, voilà qui donne matière à réflexion. En effet, c'est intéressant de voir comment la place des femmes peut être oubliée dans l'histoire, dans les sciences, et je trouve que ce livre est tout à fait intéressant. Un autre sujet peut nous saisir, quid du journal ? Qui lit encore des quotidiens ? On pourra intituler cette rubrique à suivre. Oui, qui se rappelle de ces matins, lendemains d'élections, dans le métro ou l'autobus, nombre de passagers ouvraient largement leurs journaux, cherchant les résultats de leur commune, les déclarations des responsables politiques, et ouais, Internet n'existait pas, avec les titres L'Aurore, L'Humanité, La Croix, Le Populaire, Libération, Le Figaro, et le soir, Le Monde. Bah, vous deviniez leur sensibilité politique, d'une certaine manière, côte à côte. Ils faisaient vivre la presse. Les tirages papier étaient impressionnants. Et puis, de façon inéluctable, les journaux disparurent. Les résultats, on les a juste après 20 heures. Vers minuit pour les communes urbaines, il suffit d'aller sur Internet, comme je le disais à l'instant. Sans oublier un désintérêt collectif, dû à une absence d'espoir, sinon d'enthousiasme. Les téléphones portables ont remplacé les grands formats et les tabloïdes dans les mains des passagers. Que s'est-il passé ? Eh bien, Guillaume Pinson, dans son livre « L'adieu au journal », publié au CNRS Éditions, nous donne quelques pistes fondées sur les émotions, les sensibilités, mais aussi les espaces, les temporalités, pour reprendre les titres des chapitres de son livre. Le journal était partout dans notre vie quotidienne, chez nous le matin. Dans l'art, la conscience du monde, écrivait Guillaume Pinson. Il donnait du sens. L'arrivée d'Internet change les données. Eh oui, la version papier fait place aux connexions. Fini les vendeurs de journaux à la criée. Les kiosques à journaux ne sont que l'ombre de leurs ancêtres d'il y a 20 ans. Un média s'est éteint. Et nous passons au numérique. Pourtant, il était puissant, ce média. Je cite Guillaume Pinson. Le journal était en outre le dispositif médiatique portatif par excellence, celui qu'on pouvait emporter avec soi et conjuguer à l'expérience du voyage, lecture individuelle et mobilité constituant deux traits majeurs de la modernité. Il traduisait ce journal et véhiculait nos émotions avec une approche du terrain. Une écriture sensualiste, pour reprendre l'expression de l'auteur, montrant l'émotion du journaliste, la transmettant au lecteur. Songeons aux articles d'Albert Londres. On les regroupait dans un livre et nous en avons souvent commenté dans cette émission. Pensons au bagne, justement, d'Albert Londres. L'histoire des médias se lie à celle des émotions, des sensibilités collectives, les relations des crimes si bien évoquées par l'historien Dominique Khalifa invitent à l'indignation ou à la pitié. J'ai apprécié la relation soulignée par Guillaume Pinson entre la presse et sa place dans l'œuvre de Marcel Proust. L'image rajoute à cette intensité. L'illustration s'appuie, comme son titre l'indique, sur la dépendance à l'actualité par l'image. Le lecteur pouvait se déconnecter de temps en temps, puis rétablir le contact. L'auteur songe aux annonces matrimoniales, à la presse genrée qui accentue les émotions et à travers la presse du 19e siècle, se créent les rubriques, grâce à Delphine de Girardin dans La Presse ou Séverine dans La Fronde, le grand journal féministe, et Le Cri du Peuple. Le journal, étonnamment, s'écoute. Il donne de la voix du peuple, de Proudhon. Il reprend les discours, même des pages musicales, des chansons illustrées par Steinlein dans Gil Blas. Il se lit dans le silence ou le bruit. Les salles de rédaction sont cacophoniques, comme dans Les Illusions perdues de Balzac. Les titres sont criés dans la rue. Oui, le journal parle, le journal s'écoute. Assez étonnant hein, pour du papier. La presse est un empire de papier et d'encre, sur un plan régional et national. Guillaume Pinson dresse un étonnant atlas des journaux d'expression française dans le monde, sur deux siècles. Un empire informel qui s'appuie et soutient la langue française. Une mobilité transnationale avec un dense réseau de correspondance. Que pèse-t-elle dans le temps, cette presse ? Eh bien, elle chute. Elle chute avec celle de l'Empire français, l'Empire colonial, hein, et la montée en puissance des États-Unis. Inévitablement, l'auteur estime que la fibre de bois disparaît. Il s'interroge sur l'avenir des journalistes. Que reste-t-il des grandes signatures ? Comment intégrer l'évolution des techniques ? L'avenir est un mystère, bien sûr, mais laissez-moi finir par un moment humoristique. D'où la passion des lecteurs pour les horoscopes. Vous voyez, comme on n'arrive pas, l'avenir, on consulte l'horoscope. Et puis, aussi, c'est un peu humoristique, pour ces deux mots dans les feuilletons, entre parenthèses souvent, à suivre. Guillaume Pinson, l'adieu au journal, CNRS édition, en 2026.
On raconte l'histoire du marchand de François, de Paris Presse Nathan, qui vendait dans le noir tous les journaux du soir. Au passant du quartier, qui allait se coucher.
Demandez François, Paris Presse, Le Monde. Demandez le Figaro littéraire.
Demandez Marie-Claire.
Qu'est-ce que j'entends là? Un écho à ma voix. Je ne peux pas supporter qu'on vienne dans mon quartier me marcher sur les pieds. Ah, surtout quand c'est une femme, ça fait toujours des drames.
Demandez François, Paris Presse, Le Monde. Demandez le Figaro littéraire.
Demandez Marie-Claire.
Allez, ça remet ça. Oh, mais maintenant je la vois. Qu'elle est jolie, cette fille. Elle a 15 ans au pire. Je vais lui faire un sourire. Bonjour, jolie petite fille. Alors, c'est dur ce métier-là, hein.
Demandez François, Paris Presse, Le Monde. Demandez le Figaro littéraire.
Allez, à toi. Eh bien, oh, t'en vas pas. Hé, hey, t'as rien vendu. Ne pleure pas. Je te propose un marché, si tu veux t'associer, on aura tout le quartier. Hein? Tu veux bien? Allez, donne, je vais t'aider. Et puis après, on ira au ciné.
Demandez François, Paris Presse, Le Monde. Demandez Marie-Claire.
Demandez le Figaro littéraire.
Demandez François, Paris Presse, Le Monde.
Dernier livre commenté dans le cadre de cette première demi-heure, la comparaison avec les autres pays n'est pas inintéressante, surtout dans des domaines originaux comme, le ramassage des ordures ménagères. La vie d'un éboueur, voilà un métier perçu comme ingrat et pourtant essentiel. C'est un auteur québécois, Simon Paré-Poupard. Après des études universitaires en sociologie et son expérience de travailleur social, qui ramasse depuis 20 ans les ordures comme vidangeur. Il publie cette vie professionnelle avec le titre « Ordures, journal d'un vidangeur » publié chez Luxe. vidangeur, soit éboueur en France. Il a reçu le prix des libraires du Québec, 50 000 exemplaires vendus pour découvrir un métier méconnu. Je cite « Il m'arrive de voir que l'on me confond avec les déchets que je transporte. Mais à mes yeux, mon métier est autrement plus important, je suis un vidangeur. Je ramasse jour après jour les résidus de la civilisation la plus polluante de l'humanité. » Fin de citation. Nous y découvrons les conditions de travail harassantes, notamment la première journée à ramasser les sacs. Vous savez, la première journée, faut trouver sa marque, ses marques. Et l'estime des gens, nulle part. Je cite encore, t'es en bas de l'échelle sociale, mais ça te rassure car tu sais que tu pourras pas tomber plus bas. Lucide, avec humeur. Il faut trouver ses marques. Les collègues de travail en marge. Des parcours étonnants, alcoolisme, toxicomanie. Le travail de nuit occulte les individus. À eux de ramasser les sacs et de les jeter dans la benne. Même quand ils dorment, ils en rêvent. Ils cauchemardent. La rue est à nous. On est souvent vidangeur en famille. Mais quel parcours au fil des pages. Le vieil André à 52 ans, ou Spandex qui parle aux ordures. Il y a une solidarité entre les gars à problème. On y apprend à manier les sacs, les bacs, pour évacuer quels déchets. Eh bien, l'auteur dénonce l'hypocrisie des sociétés qui pratiquent le recyclage. Vous lirez. Revenons aux conditions de travail. La nuit, l'hiver, dans le froid, la neige, le verglas, les risques d'accident, et l'été. La canicule, une chaleur écrasante derrière le camion, les odeurs, les ordures qui macèrent et la prolifération de vers blancs, de mouches. Oui, dans ce livre, vous êtes sur le terrain, c'est pas de la sociologie de salon. Et Simon Paré-Poupard compare la situation en France à celle du Québec. Il donne l'origine des mots, les boues, les boueux, les éboueurs. Eh oui, les tonnages portés. Le taux de syndicalisation, il en profite aussi pour dénoncer les scandales de la mafia italienne et l'évacuation de produits toxiques vers le tiers-monde. Face à la masse de déchets évacués, il s'interroge sur le gaspillage et un recyclage intelligent. La société rejette quantité d'objets, de produits. Il dénonce ces pratiques. Il se vit comme un anarcho-poubelliste. C'est lui qui le dit. Qui rêve d'autogestion des vidanges par les rebuts de la société. Je cite encore, « Je suis un rouage de ce système, c'est sûr, mais aussi, à ma modeste échelle, un rebelle qui le combat. » Après la lecture de ce livre, vous ne regarderez plus les rippers de la même manière. Je rappelle les références. Simon Paré-Poupard, « Ordures, journal d'un vidangeur », aux éditions Luxe en 2026. Et nous allons passer une chanson de Serge Reggiani qui s'intitule justement « Poubelle ».
Poubelle, poubelle, photosoupir, déclic, flashback, souvenir. Pétales séchées, la crème d'amour sucré, elle a tourné. L'étiquette métro et son adresse au dos, y'a plus personne à ce numéro. Ce petit bout de crayon, tous ces papiers de bonbons qui traînent dans une boîte en carton. Poubelle, poubelle, sans les relire, tous ces aveux sans avenir. Poubelle, poubelle, lâcher du lest, aller-retour Paris-Brest, c'est tout ce qui reste. C'est quoi ce foulard, ce briquet de bazar, ce chapeau jamais mis, ce costard, des boîtes à musique, morceaux de mécanique, en vrac, dans un sac, en plastique. Poubelle, poubelle, laissez passer tout ce passé dépassé. Poubelle, poubelle, cérémonie, on pleure un peu, on oublie, et c'est fini.
Nous arrivons au deuxième temps de notre émission et nous allons à la rencontre d'autres marginaux. Ceux qui sont évoqués dans le livre de notre invitée Claudine Nedelec, Argot et littérature au Moyen-Âge jusqu'aux Misérables, aux éditions Le Temps des Cerises en 2025. Pour des raisons pratiques, l'entretien a été enregistré et en fin d'entretien, bon, on a souhaité passer une chanson sympathique de Georges Brassens, La Ronde des Jurons. Bonjour Claudine Nedelec, vous êtes professeure émérite à l'Université d'Artois, spécialiste de la littérature du XVIIe siècle, de l'écriture burlesque. Vous avez consacré votre thèse au langage de l'argot, alors sur une période très précise, 1596-1842. Et l'an dernier, vous avez publié aux éditions Le Temps des Cerises votre ouvrage Argot et littérature du Moyen-Âge aux Misérables. Est-ce que c'est une reprise de votre thèse ?
Oui. C'est une reprise de ma thèse. À l'époque, je n'avais pas eu la possibilité de la faire éditer. En 1992, cela remonte, il n'y avait pas les mêmes opportunités qu'aujourd'hui de publication des recherches et on était au tout début de l'ordinateur. Alors ensuite, j'ai bifurqué dans ma recherche sur la littérature comique spécialisée dans le XVIIe siècle, mais j'avais continué à écrire sur l'argot de temps en temps, faire quelques articles, et donc je m'étais promise d'y retenir. Mmh. Et c'est Marine Roussillon, qui est directrice de la collection Essais littéraires au temps des cerises, qui m'en a donné l'occasion, et j'en remercie.
En couverture, nous retrouvons le célèbre dessin de Victor Hugo, qui représente Gavroche à 11 ans. C'est votre choix ?
C'est Marine qui me l'a proposé et j'ai accepté tout de suite parce que je trouve qu'il correspond bien à l'idée de mon livre. L'argot, c'est le lait dans la langue, mais c'est aussi pour les écrivains une langue poétique, artistique, à la fois grotesque et effrayante. L'argot, c'est toujours la langue d'une forme de révolte, comme celle de Gavroche, contre l'ordre social et une forme de marginalité, qu'elle soit voulue ou subie. Et enfin, l'argot a joué un rôle important dans la carrière littéraire de Victor Hugo. Depuis Le Dernier Jour d'un Condamné de 1828, qui date de ses débuts, au Misérable justement, donc j'ai un peu élargi l'empan de ma thèse pour partir vraiment des tout débuts au Moyen-Âge jusqu'à 1862, date de publication des Misérables.
Vous vous arrêtez aux Misérables, mais pourquoi ne pas aborder le ou les argots jusqu'à nos jours ?
Il n'aurait pas été raisonnable d'envisager une thèse sur un tel empan chronologique déjà.
Oui, d'accord, ça c'est par rapport
à... J'étais à la limite du convenable. D'autre part, on ne peut pas être sérieusement savante sur une telle distance. Mm-hmm. Donc ce serait un peu prétentieux.
Il y a encore de l'argot aujourd'hui, il y a encore des argots aujourd'hui.
Et puis surtout parce que la révolution de 1848 Puis la révolution industrielle sous le Second Empire modifie profondément les conditions économiques et les représentations politiques et économiques des marginaux, de ceux qui parlent argot. Argot qui, de ce fait, se divise, s'élargit, se répand, devenant une réalité beaucoup plus labile et dépassant largement le cadre strictement marginal des périodes anciennes. Argot des théâtres, argot des grandes écoles, argot des tranchées, argot des romans policiers. Donc, tout ce que je vais dire concerne plutôt la période que j'ai étudiée et ne peut pas tout à fait s'appliquer sans des réserves parfois majeures à la littérature moderne et contemporaine.
Il n'y a pas de définition de l'argot, écrivez-vous dans votre livre. Pourtant, on peut peut-être dessiner quelques traits. Et je crois qu'on parlait de jargon, d'ailleurs, initialement. C'est le jargon qui est devenu l'argot.
Alors,
c'est curieux.
Jargon est un mot très ancien, qui date du XIIe, XIIIe siècle. Et, entre autres sens, puisque son premier sens, c'est le langage des oiseaux, il désigne, dès le XIIIe siècle, cette langue spéciale de marginaux très précis qui sont d'une part les mendiants, d'autres les mendiants vagabonds, traits de misère, hein, et d'autre part les bandits de grand chemin. Dès le début, les sources de ce jargon sont littéraires. C'est-à-dire qu'on n'a évidemment pas de contact avec la réalité historique de cette langue. En fait, c'est un lexique. Et c'est par des chansons de gestes, deux chansons de gestes, les mystères, les spectacles théâtraux religieux, et les poèmes de François Villon, que est petit à petit révélé, si on peut employer ce terme, le jargon à ceux qui ne font pas partie de ces marginaux.
Et quand on pense au mystère, les gens qui les écoutaient, qui les voyaient, comprenaient cet argot ?
C'est une grande question. Je n'ai pas de réponse, je ne suis pas du tout spécialiste du Moyen-Âge, il faudrait faire des recherches, je ne sais pas. Il y a, bien sûr, ce n'est pas tous les mystères, il y a quelques mystères dans lesquels ce sont tous ceux qui sont voués au diable, donc voleurs, brigands.
Ah ben ceux-là, l'argot, voilà, le jargon, c'est parfait.
Qui parlent argot. Et parfois, il y a parfois des longues séquences. Il y a un mystère dont le nom m'échappe, mais qui contient près de 300 vers ou contient des mots d'argot. Et ma question, c'est est-ce que le public comprenait ? Je ne sais pas.
Ou est-ce que les gestes permettait de faire comprendre les mots utilisés.
Voilà, où est-ce qu'on joue sur cette ambiguïté sur laquelle on peut jouer au théâtre, c'est qui est que s'ils comprennent, tant mieux, s'ils ne comprennent pas, tant pis, il y a un effet qui peut être autre, un effet comique par exemple.
Et puis dans les mystères,
voilà, le baragouin, on voit un personnage qui baragouine sur scène, peu importe, de toute façon l'histoire est connue. Le mystère se termine par la victoire du Christ, donc tout va bien.
Toujours une résurrection par là-dessus.
Les méchants sont toujours punis, donc c'est pas très grave. Ce qu'il y a, ça pose une question, d'ailleurs ça posera une question dans la suite de l'histoire, puisque on trouve de l'argot dans tous les genres littéraires, mais beaucoup moins au théâtre. Parce que justement, le théâtre pose ce problème de la compréhension. Donc il y a quelques exemples, dont certains ont été célèbres en leur temps, mais c'est sur des séquences tout à fait limitées. Il n'y a pas ce système de traduction de l'argot qu'on trouve dans la littérature narrative. Les notes de bas de page, les dictionnaires,
Et donc, il n'y a pas de définition d'argot, de l'argot.
Alors, si, il y a des définitions, mais elles sont variables suivant l'histoire. L'apparition du mot argot est datée de 1628, moi je dirais plutôt 1629, mais ça c'est des querelles de spécialistes, dans un ouvrage qui s'appelle « Le jargon » ou « Langage de l'argot réformé, comme il est à présent en usage parmi les bons pauvres ». Il faut comprendre « bons pauvres » de manière ironique, ce sont des mauvais pauvres. Les bons pauvres, c'est ceux qui sont vraiment pauvres et qui sont obligés de mendier pour gagner leur vie. Les bons pauvres, c'est les mauvais pauvres, c'est les paresseux qui trouvent des astuces pour ne pas avoir à travailler, dont la mendicité, le chapardage, le vol.
C'est pas non plus la, c'est la langue des basses classes, des gueux.
La langue des gueux, oui, au sens du 17e, 18e, enfin jusqu'à la Révolution française, grosso modo, oui. C'est-à-dire la langue de ceux qui sont obligés d'utiliser des moyens plus ou moins légaux pour vivre.
Alors, vous avez évoqué une date, là, et une œuvre pour repérer l'entrée de l'argot dans la littérature. Et on a aussi le jargon, vous avez évoqué François Villon, le jargon des coquillards, cher à Villon. Expliquez-nous ce jargon, parce que je crois que Clément Marot, qui a essayé de traduire Villon, n'a pas réussi sur certains poèmes.
Enfin, il dit, alors, je laisse aux spécialistes le soin de traduire. Est-ce qu'il ne connaissait pas ou est-ce qu'il ne voulait pas s'engager ? C'est un cas assez particulier, parce que donc François Villon est à la fois un très grand poète et, on le sait, a fréquenté
les beaux milieux.
Moi, la pègre.
Alors, c'était les mauvais pauvres. Il a fréquenté plutôt les mauvais pauvres.
Des véritables bandes criminelles. La bande des coquillards, c'est une bande criminelle. Criminalité soit dans les villes, soit dans les campagnes, enfin sur les routes. Il les a fréquentés, on ne sait pas très bien exactement, mais enfin, il a failli être pendu, on le sait.
Oui.
Donc, il semble bien que... Et donc, il écrit ces fameuses ballades. Et par ailleurs, on a cette bande qui s'appelait les coquillards, probablement parce qu'ils portaient des coquilles de Saint-Jacques pour se faire passer pour des pèlerins allant à Saint-Jacques et en profiter pour soit mendier, soit si vous ne voulez pas leur donner,
vous invitez plus
nettement. Inviter fermement à donner l'aumône. Et donc, il y a eu un procès en 1455, par là, de ces coquillards. Et dans les minutes du procès, figure l'interrogatoire d'un de ceux qui ont été arrêtés, qui dit, qui avoue qu'ils avaient un langage particulier. Mais ce qui est intéressant, c'est que le juge pose la question, est-ce que vous avez un langage particulier ? Donc le juge est déjà informé qu'une bande criminelle peut fonctionner à l'aide d'un langage restreint, qui est une sorte de code de reconnaissance, de code technique, et de moyens de ne pas se faire comprendre par les victimes potentielles.
Ce qu'on va retrouver à la fin du 19e, début 20e, avec les Apaches, etc. On lit Francis Carcot.
S'il y a une définition de l'argot, c'est ça. C'est une langue qui est à la fois un signum social. Vous signale comme, et c'est chez Vidocq par exemple, dans l'histoire de Vidocq, c'est tout à fait clair. Dès qu'on parle d'argot, Vidocq se dit, ah là, il y a de quoi prendre pour la police. C'est un langage secret, donc qui permet de se protéger et de préparer des coups, entre guillemets, sans que les bourgeois visés sans doute. Mais dès ce texte que je citais du tout début du XVIIe siècle, il y a une scène assez drôle où les argotiers essayent de prendre, de tromper un bourgeois, et le bourgeois leur répond en argot. Je vous ai compris, avec moi ça ne marche pas. Donc vous voyez, il y a cette question du secret est une question tout à fait ambiguë. Parce que tous ces textes qui font parler l'argot sont en même temps des textes qui disent c'est pour vous apprendre, vous, messieurs les bourgeois, messieurs les gens bien, messieurs les gens honnêtes, à vous méfier. Donc on va vous l'apprendre pour vous prévenir.
Cela dit, quelqu'un qui parle argot et qui n'est pas de ce milieu, on arrive à le repérer assez aisément. Et l'argot, d'ailleurs, c'est une langue ou ce sont des gens?
Alors, au départ, c'est des gens. Au départ, dans le texte que je vous citais, donc le jargon ou langage de l'argot, l'argot, c'est le groupe. C'est qui est imaginé par l'auteur de ce texte, il s'appelle Olivier Chéreau, on a son nom, il a signé son texte, qui est imaginé comme une sorte de contre-société, avec un roi, avec une structure hiérarchique.
C'est, avec le roi, lois. c'est pas ragot.
C'est un de ceux, c'est une des incarnations.
Argot, ragot, non, ça n'a rien à voir.
C'est une des étymologies D'accord. proposées.
D'accord. Ouais, donc c'est un monde à part.
Garde plus crédible que les autres. D'accord. Non, le mot argot figure dans un dictionnaire qui s'appelle le Dictionnaire des étymologies obscures. Et donc la conclusion, c'est qu'on a proposé des dizaines de. D'étymologie possible, en fait, on ne sait pas.
Et alors, c'est...
Donc, au départ, c'est le groupe, et ça devient assez vite la langue la de langue. Ce groupe.
D'accord.
Et le sens de groupe disparaît assez vite des dictionnaires. On finit,
c'est la langue.
Si ouais. ça devient la langue.
Et
jargon perd ce sens-là, prend un autre sens, enfin, prend le
presque
sens actuel.
Presque plus élitiste. Le jargon, c'est le jargon des médecins, le jargon
ça peut être ça
des avocats.
Après, le jargon, ça devient une langue pas très compréhensible, réservée à des petits groupes, mais pas forcément des groupes marginaux.
Oui, oui. Hein? On va pas parler de l'argot des avocats ou de l'argot des docteurs. Alors là, c'est
ça dépend des époques.
Peut-être, oui.
Au 19e, on parlait facilement de l'argot des théâtres.
Des théâtres.
Jusque, grosso modo, la guerre 14, avec l'argot
des tranchées.
Des tranchées.
Ouais, les tranchées.
Et là, guerre 14, juste après, il y a un certain nombre de publications sur l'argot des tranchées. Mm-hmm. Donc, on parlait facilement d'argot. Aujourd'hui, on le fait moins, je pense.
Et alors, on évoquait ce point. Peut-on parler de peut-on apprendre l'argot je pense à la scène entre Gavroche et les mioches.
Oui, alors c'est une scène qu'on trouve déjà dans un texte qui est antérieur au jargon de l'argot réformé, qui s'appelle, alors là pour le coup l'auteur est anonyme, La vie généreuse des mercelots, gueux et bohémiens. Bon, en réalité, les bohémiens dans ce texte ne parlent pas l'argot, donc on n'en parle plus. Les mercelots, ce sont les marchands ambulants. Vous savez, ceux qui avaient une balle, c'est-à-dire un grand morceau de tissu, où ils mettaient trois, quatre articles et qui faisaient le tour des foires pour vendre des petits objets, de la ficelle, que sais-je, des aiguilles, enfin vraiment de la toute petite mercerie. Et qui, du coup, alors ce texte est une sorte d'autobiographie, il se fait voler sa balle, sa marchandise, et donc il devient mendiant. Et puis après, il rencontre une bande de bohémiens, et il intègre cette bande. Et donc, lorsqu'il devient mendiant, il y a une scène d'initiation, qui est d'ailleurs reprise plus ou moins par d'autres auteurs, et en partie par Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris, dans la représentation de la Cour des Miracles.
Oui.
C'est-à-dire qu'on... Et donc, au cours de cette initiation, il apprend le langage, il apprend les lois de cette contre-société.
Oui. Les codes.
Les codes, oui, voilà. Oui. Il apprend à qui il doit obéir, les méthodes pour mendier.
Oui.
Parce que c'est tout un art de savoir mendier comme il faut. Et donc, oui, ça c'est une scène, comment dirais-je, fondamentale. Et ce que je pense, c'est que Victor Hugo s'amuse à la reprendre d'une façon un peu décalée, toujours dans cette idée du mélange du grotesque, du ridicule, du comique. Hein. C'est rigolo que Gavroche fasse la leçon d'argot à ces deux petits bourgeois qui sont perdus. Et en même temps, quelque chose d'un peu terrible, terrifiant, dans la mesure où pour Hugo, comme l'argot est lié à la criminalité, donc au mal, l'enfance devrait en être protégée. Mmh. C'est ce qu'on voit dans Le dernier jour d'un condamné, où il entend une chanson en argot, qui est chantée par une jeune fille, qui est la fille du gardien, qui n'est donc pas, ne fait pas partie de la pègre. Et il dit, je ne sais plus, quelque chose comme dans les formules habituelles de Hugo, c'est que comme la bave d'une chenille sur une rose.
On évoquait à l'instant la cour des miracles. Il y a aussi un argot, donc, de la cour des... voire même des argots, parce qu'il n'y avait pas une cour des miracles, il y en avait plusieurs.
Miracles, c'est un cas un peu assez intéressant, dans la mesure où tout le monde, par le biais de Victor Hugo, pense que c'est quelque chose qui date du Moyen-Âge. En réalité, on n'en entend parler qu'au XVIe siècle. On commence à avoir des textes, ils sont des textes Noël Dufail, qui est un de ceux qu'on appelle les conteurs du XVIe siècle, une histoire, et qui raconte que donc les mendiants se rassemblent dans les villes, dans des zones qui sont, on dirait, les bas-fonds des villes, et qui, du coup, font la fête avec ce qu'ils ont réussi à grappiller dans la journée. Mais il n'y a pas forcément de lien entre l'argot, la pratique de l'argot, et la cour des miracles. C'est deux représentations qui se combinent, qu'on retrouve aussi... Alors, après, si vous voulez, au XVIIe siècle, par exemple, il y a plusieurs... Dans les plans de Paris, on voit... des dénominations cour des miracles.
Oui, il y a des zones, effectivement.
Il y a des zones, plusieurs zones dans Paris. Et on retrouve cette idée-là dans les Mystères de Paris de Gensu, quand il décrit l'île de la Cité.
Oui.
Qui ressemble, qui récupère des éléments de cette cour des miracles.
Et on retrouve ça aussi chez, vous évoquez Lassner, le maître dans les Mystères de Paris de Gensu, et Lassner jongle aussi et joue avec cet argot.
C'est assez intéressant parce que le maître parle et comprend l'argot, mais il ne le parle pas.
Non.
Même chose pour Lassner. Et très frappant que là, pour le coup, on a des documents historiques. Lors de son procès, Lassner ne parle jamais argot. C'est quelqu'un qui avait reçu une formation. C'est un bourgeois dévoyé, Lassner. Par contre, son complice, oui, Avril, parlait argot au cours du procès. Et là, c'est très, très amusant.
Alors,
parce que quand Avril parle argot, c'est le président du tribunal qui traduit pour lui.
Et où va-t-on trouver ces propos-là de Lassner, Avril? Quels sont les livres? Est-ce qu'il y a des livres, il y a des mémoires, il y a des documents là-dessus?
Il y a les mémoires et poésies de Lassner. Il y a une poésie en argot, c'est tout.
En réalité, il le connaissait, cet argot.
Oui,
bien sûr. Mais il voulait montrer qu'il n'était pas lui-même.
Voilà, il voulait montrer qu'il n'était pas...
D'accord.
C'est chez Vidocq, surtout, dans les mémoires de Vidocq, qu'on trouve le plus de quantité, je veux dire, proportionnellement, de lexique argotique, notamment dès qu'il devient policier. C'est assez frappant, il y a 4 tomes, que dans les premiers tomes, le premier tome où il raconte son enfance, son adolescence, son entrée dans la criminalité, etc., il y a très très peu d'argot, pratiquement pas. Et c'est à partir du moment où il devient policier qu'il se met à parler argot pour piéger les criminels.
Voilà, c'est ça.
Mais ça, c'est une construction littéraire, vous voyez bien.
D'ailleurs,
c'est pas lui qui a...
Voilà, c'est ce que vous dites, ce que vous écrivez.
Il le dit lui-même, donc on n'a pas...
Il y a des fantômes dans le temps des Dernières, maintenant
Là, à l'époque, lui, il emploie le terme de teinturier.
Teinturier,
c'est très joli. Donc il dit très bien, mon premier tome, il y avait tel teinturier, il ne m'a pas plu, je n'ai pas trouvé ce qui... Je trouvais que ce n'était pas bien rédigé, donc j'en ai pris 2 autres, qui sont par ailleurs, ces 2 autres, je retrouver leur bibliographie, ce sont des spécialistes un peu de ce type de littérature, mais dans la fiction. Donc, on peut supposer évidemment que Vidocq a accepté leur version, mais voilà, il y a tout un travail d'élaboration qui est une élaboration littéraire. Et que, comme je dis, Victor Hugo est allé voir, par exemple, le ferment des Forçats à Bicêtre, Mais Victor Hugo, il apprend l'argot dans les livres.
Oui, bon.
À la bibliothèque.
Oui, il ne va pas aller sur le terrain.
Il n'est pas allé sur le terrain. Même chose pour Balzac, et il est probable, bon, enfin, en tout cas, c'est mon hypothèse, que c'est Balzac qui a écrit l'autre grand texte de Vidocq qui s'appelle Les voleurs. Qui est une sorte de dictionnaire des différentes formes de vol et de mendicité, avec une préface et des documents annexes qui racontent toute l'histoire de la tradition textuelle de l'argot. C'est pas Vidocq qui a écrit ça.
Ouais, non, c'est pas son truc d'ailleurs, c'est pas son objectif.
Il est cultivé, c'est pas l'auteur.
Et donc,
c'est peut-être Balzac qui l'avait rencontré, Vidocq, dans les salons.
Ouais. On retrouve aussi des tableaux de mœurs. Alors, vous avez des titres, Le Rat du Châtelet ou Les Chauffeurs d'Orgères. Alors, Les Chauffeurs d'Orgères, je connaissais, mais Le Rat du Châtelet. Et ça me fait penser un peu aux travaux de Dominique Khalifa.
Je l'avais invité à faire une conférence dans son séminaire.
Vous voyez, moi aussi, je l'avais rencontré une fois. On ne l'avait pas interrogé dans notre émission, mais c'était quelqu'un de passionnant.
Oui,
et là, donc, vous trouvez... c'est... Alors, Le Rat du Châtelet, pouvez-vous nous expliquer ce que c'était ?
Le Rat du Châtelet, c'est un texte qui a été écrit pendant la Révolution française, je ne sais plus la date exacte, 92 peut-être. C'est un texte à la première personne, donc quelqu'un qui est arrêté et enfermé au Châtelet et qui se trouve métamorphosé en rat. Et en tant que rat, il peut aller partout dans la prison.
Incroyable.
Et donc, on a une visite, en quelque sorte, de la prison par ce rat qui entre dans diverses cellules. Alors, il y a la cellule de l'ouvrier qui a été arrêté par erreur et qui pleure toutes les larmes de son corps, parce qu'on est quand même à une période de mélodrame. Voilà. Il y a la cellule des prisonniers de droit commun. Il y a la cellule des contre-révolutionnaires qui sont des aristos un peu chics. Voilà. Et dans cette cellule des prisonniers de droit commun, il entend l'argot. Et là, il y en a vraiment beaucoup.
Ouais.
Et c'est un texte très intéressant parce que, alors ça se termine pas parce que on ne sait pas qui est l'auteur. J'ai essayé de faire des recherches, mais c'est compliqué. On pourrait peut-être trouver. Il y a des allusions à des personnages historiques du temps sous des noms factices. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un des premiers textes sur l'argot dans la prison. Dans les prisons. Parce que comme la prison n'était pas sous l'Ancien Régime une peine affective, une peine de détention n'existait pas. On arrêtait les gens pour les faire s'interroger, puis après faire le procès. Ça allait en général assez vite dans le cas des voleurs. Là, la peine, pendant la Révolution, la peine devient affective, d'une part, et d'autre part, pendant la Révolution, il y a aussi beaucoup de gens qui ne fréquentaient pas du tout ce type de milieu, qui se sont retrouvés en prison. Soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons économiques, puisqu'à l'époque, on enferme aussi pour dette. Et ça, jusqu'au milieu du 19e siècle, au moins. Mmh. Et donc, il y a eu... Là, il y a une modification assez sensible des choses. Mmh. Et de nouveaux mots apparaissent. En même temps.
Le vocabulaire évolue en permanence,
c'est ce qu'on a dit, et
à la fin de l'ouvrage, de votre ouvrage, on retrouve d'ailleurs un lexique argotique, et c'est tout à fait intéressant. Alors c'est un vrai phénomène linguistique, bon, on a évoqué Hugo, Stendhal, Balzac, qui pénètre la poésie, le roman, assez peu le théâtre, vous l'avez évoqué, parce qu'il faut que tout le monde puisse comprendre quand on va au théâtre, et puis ça ne marche pas lorsque les écrivains tentent de s'exprimer en argot, vous le dites, c'est des approximations.
C'est-à-dire que moi, ma posture, ce n'est pas une posture du tout de linguiste. Je ne suis pas linguiste, ni de formation, ni de goût. Ce qui m'intéresse, c'est comment la littérature, qui est censée être quand même le lieu du beau langage, s'approprie, représente un langage stigmatisé. Marginalisé, pour différentes raisons ou avec différentes nuances suivant les époques. Et donc, c'est ça qui m'intéresse. Et En plus, dans les époques que j'étudie, il n'y a pas d'enregistrement, donc je n'ai aucun moyen de savoir quel était l'argot réellement parlé. Mm-hmm. Ah, on peut penser que Vidocq nous donne un argot réellement parlé. Ah oui, mais sauf que c'est passé par des médiations.
Les premiers enregistrements d'un langage populaire à Paris, je crois que c'est dans les années 1910 ou quelque chose comme ça. Je me rappelle d'un Parisien à qui on faisait écouter différents autres Parisiens. Et le gars était capable de... Ah mais celui-là, il est du 15e, hein. Il parle pas du tout comme nous à la Villette. Alors que franchement, pour trouver les subtilités, faut quand même être très très fort.
Oui, mais bon. Par exemple, Victor Hugo parle de différentes formes d'argot suivant les quartiers et suivant les bandits. Puisqu'il y a le groupe des bandits qui se rassemble autour du frère de Gavroche, comment ça s'appelle, Montparnasse. Et donc, il a des bandits venant de différents quartiers de Paris. Mais c'est Victor Hugo qui nous le dit. Est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance? Il y a toute une part aussi d'invention, de recyclage. Oui. Il nous donne une chanson qui est censée avoir été chantée donc, dans une prison de 1828. C'est une chanson qui parle du roi. Bon, ça pourrait être Louis XVIII. Et des fontanges. Les fontanges, c'est une coiffure qui date d'avant la Révolution française. Donc, il l'a récupérée quelque part, oui. Ou il l'a inventée, je ne sais pas. Oui. Mais voilà, il y a une part de recréation. C'est ça qui est intéressant. Hein. Mm-hmm. C'est cette recréation, parce qu'elle est liée aussi à toutes les représentations idéologiques de ce que c'est que la marginalité.
Et vous évoquez aussi l'ouverture vers les ouvriers qui ne sont pas forcément des gueux, qui ne sont pas forcément des marginaux, mais qui parlent entre eux.
Alors ça, c'est surtout sensible dans les Mystères de Paris de Gensu, où on commence à voir, ce qui n'est pas du tout le cas au XVIIe, XVIIIe, parce que XVIIe, XVIIIe, l'argot, il est parlé dans des milieux extrêmement spécifiques, fermés sur eux-mêmes et qui n'ont rien à voir avec la classe populaire qui travaille. Hein, c'est vraiment deux mondes. C'est au moment probablement du développement des villes et aussi du développement de la classe ouvrière qui, pour ainsi dire, n'existe pas sous l'Ancien Régime.
Non, quasiment pas. Ouais.
C'est des artisans.
Le prolétariat.
Il y a déjà des manufactures où il y a une centaine d'artisans, mais ça n'a rien à voir avec la classe ouvrière et la conscience de classe qui naît, pour moi, enfin, je ne suis pas du tout historienne, mais voilà, qui naît vers 1848, au moment 48, de la Deuxième République. Oui, là il commence à y avoir vraiment quelque chose. Et vous voyez, c'est 44.
Ah oui.
Donc on voit bien. Et là, on commence à voir, chez Eugène Sue, une espèce de mélange entre classe populaire, ce qu'on appelle aujourd'hui le travailleur pauvre, la prostitution, qui est très peu présente avant, qui devient un thème important, et les criminels, on va dire ça comme ça, très largement, entre le petit voleur à la tire et les bandits ont un peu disparu. Et donc, c'est ce qu'on a appelé les bas-fonds des villes.
Oui, c'est ça. Eh bien, Claudine Nedelec, merci pour cette promenade et dans l'histoire, dans les bas-fonds, dans la société, la poésie. C'est un livre qui fourmille de références. Hein. Vous avez vraiment fait un très, très gros travail. Et pour celles et ceux qui veulent aller retrouver les livres que vous évoquez, on peut les retrouver peut-être chez Gallica, s'ils ne sont pas sur Gallica.
Par exemple, le jargon de l'argot réformé est maintenant sur Gallica. Ce n'était pas un moment de ma thèse, mais maintenant il est sur Gallica, dans sa version originale. Donc voilà. J'avais publié ceci. Si on veut rechercher les textes les plus anciens.
Ah, les enfants de la Truce, oui. Vie et langage des argotiers. Alors ça,
C'est les textes du 16e.
Oui, 1596, 1630. Oui, voilà. D'accord.
Ouais. Ça, c'est la base puisque certains mots qui sont... Parce qu'il y a des dictionnaires, c'est tout à fait frappant, c'est qu'il y a des dictionnaires dans ces textes-là déjà, et on est au tout début des dictionnaires de français. Hein? Donc, dès le début, on fait des dictionnaires. Et il y a des mots qu'on retrouve encore aujourd'hui.
Oui, hein? Tout à fait. Et puis, on a la méthode à 8000. Hein,
voilà, je ça, alors je voulais ça parce que vous parliez d'apprendre l'argot, et oui, moi, j'ai toujours adoré ce texte.
Oui, tout à fait.
Et là, si on devait faire une histoire de l'argot après les Misérables, il faudrait prendre Bruant,
oui.
la génération de Boudard, les débuts de la série noire, puisque c'est là que j'ai découvert l'argot, c'est avec les Peter Chenet traduits par Georges Duhamel.
Alors je rappelle les références de votre ouvrage, donc Claudine Nedelec, Argot et littérature du Moyen-Âge aux Misérables, aux éditions Le Temps des Cerises en 2025. Eh bien, je vous remercie pour ce temps passé ensemble.
Voici la ronde des jurons qui chantent éclair, qui dansent rond. Quand les Gaulois de bonne aloi du franc-parler suivaient la loi, jurant par là, jurant par-ci, jurant à langue raccourcie, comme des grains de chapelet, les joyeux jurons défilaient. Tous les morbleus, tous les ventres bleus, les sacres bleus et les cornes gidouillent ainsi parbleu, que les jarnies bleues et les pâles semblent. Tous les cristis, les ventres saints gris, les parmabarbes et les noms d'une pipe ainsi pardis, que les sapristis et les sacristis. Sans oublier les jarnies cotons, les scrogneugneux et les bigrés, les bougres, les saperlottes, les crénons de nom, les pestes et pois, diantres, fiches, tréfoutres, tous les bons dieux, tous les vertus dieux, tonnerre de Brest et saperlipopette, ainsi par Dieu, que les jarnies dieux et les passes, que Dieu. Quelle pitié, les charretiers ont un langage châtillé, les harangères et les mégères ne parlent plus à la légère. Le vieux catéchisme poissard n'a guère plus cours chez les hussards. Ils ont vécu des profondis, les joyeux jurons de jadis. Tous les morbleus, tous les ventres bleus, les sacres bleus et les cornes gidouillent ainsi parbleu, que les jarnies bleues et les pâles semblent. Tous les cristis, les ventres saints gris, les parmabarbes et les noms d'une pipe ainsi pardis, que les sapristis et les sacristis. Sans oublier les jarnies cotons, les scrogneugneux et les bigrés, les bougres, les saperlottes, les crénons de nom, les pestes et pois, diantres, fiches, tréfoutres, tous les bons dieux, tous les vertus dieux, tonnerre de Brest et saperlipopette, ainsi par Dieu, que les jarnies dieux et les passes, que Dieu.
Entrons maintenant dans le troisième temps de l'émission que nous appelons Varia. Commentons un livre d'histoire. Et là, nous retournons en Cévennes. On a présenté plusieurs livres sur les Cévennes et l'esprit d'Agnès n'est pas loin car Patrick Cabanel nous présente l'histoire de village qui entoure Bar des Cévennes qui était son village d'origine. Je vous rappelle qu'Agnès a alimenté des chroniques dans le domaine artistique et culturel jusqu'au mois de décembre. Alors, il s'agit de Saint-Germain de Calberte. C'est un exemple de micro-histoire. J'ai évoqué dans une précédente émission le livre de Patrick Cabanel, Cévennes, un jardin d'Israël, publié aux éditions Alcide en 2018. Il évoquait la passion d'une terre, d'une histoire, de femmes et d'hommes portés par leur foi. Aujourd'hui, découvrons un autre livre de ce même auteur qui relève de la micro-histoire, c'est-à-dire d'une approche adoptée par une nouvelle génération d'historiens. Les grandes fresques ont déjà été publiées sur le protestantisme en Cévennes et la sauvagerie de la répression. Mais Cabanel nous fait revivre ces événements en s'appuyant sur l'histoire d'un village, Saint-Germain-de-Calberte, au cœur des Cévennes protestantes, à côté de Florac, Pont-de-Montvert, Veubron, Le Pompidou, des noms qui, moi, m'évoquent tant de souvenirs, mais qui évoquent aussi à un certain nombre de protestants qui nous écoutent, ou de Cévenols, eh bien, qui évoquent aussi certainement des images, des promenades, etc. Allez-y aujourd'hui et vous serez surpris de l'acharnement des catholiques, de la soldatesque à rechercher et contraindre les gens dans des endroits isolés où ils emmerdent des personnes entre nous, à rejoindre l'Église catholique, apostolique et romaine. Un plan du village montre qu'il ne reste qu'un pan de mur du temple protestant. Et durant le XVIIe siècle, la reconquête catholique est à l'œuvre sous la houlette notamment de la marquise de Porte. Les temples seront rasés, les conversions arrachées contre de l'argent, des abjurations sous la pression des dragons, des pasteurs séduits ou emprisonnés, des hommes aux galères. La révocation de l'édit de Nantes intervient le 18 octobre 1685. Il faut éradiquer la religion prétendue réformée. Nous allons de village en hameau pour mesurer l'intensité de la sauvagerie militaire et ecclésiastique. Un certain abbé Duchella installe à Saint-Germain-de-Calberte un séminaire catholique alors que le village était majoritairement protestant. Mais vous lirez le sort de cet abbé. Patrick Cabanel évoque des personnages, des familles qui vont immigrer vers le refuge huguenot, c'est-à-dire les pays à connotation protestante. D'autres vont se cacher et vivre le secret de leur foi. Mais, gare à la dénonciation, à partir de 1686, des assemblées du désert se regroupent autour de prédicateurs. Et l'attaque de l'assemblée de Closelet montre le sort réservé, les cadavres jetés dans la nature sans sépulture. Comment retrouver les lieux? Souvent, ils sont enfouis, mais accompagnés par exemple Patrick Cabanel, et un regard attentif permet de les repérer. Il en restera quelque chose de ces années de violence. Ils seront républicains pendant la Révolution, bah oui. Ils sauront accueillir les Juifs, pourchassés plus tard. Certains, certaines, n'en feront pas état, considérant que c'était simplement leur devoir. On est loin des monnaies et médailles et autres quêtes de colifichets. Et Patrick Cabanel, de conclure, il y a là une forme de continuité devant laquelle la révocation elle-même aura été un épiphénomène, certes, mais tragiquement fondateur. Je voudrais aussi évoquer le livre de notre ami Éloi Valla et Christelle Bernat, Camisard, qui a été publié en 2025 aux éditions Bleu Autour et qui lui aussi apporte la force de l'image à cette évocation. Je rappelle donc Patrick Cabanel, Un village sous la révocation de l'édit de Nantes, aux éditions Passé Composé en 2025. Et écoutons une musique klezmer qui fera le lien entre le livre que nous venons de présenter et le rôle des protestants pour protéger les juifs et le suivant. Voilà, allez, écoutons ce morceau de musique. Et oui, cette musique nous fait penser au Yiddishland. Eh oui, un enfant du Yiddishland. Voilà comment nous pourrions présenter Edgar Ilsenrath, qui parcourt les pays de cette Europe centrale avec sa famille pour fuir la menace nazie dans les années 30. Enfant, il subit un chant terrible. Alors, je ne vais pas vous le chanter, mais je vais vous le citer. « Que le sang du juif gicle sous nos couteaux, la vie est deux fois plus belle. » Il faut le faire, hein, quand même. Hein. Les insultes de ses camarades de classe. L'un d'entre eux trouvera sa place, d'ailleurs, dans le plus célèbre livre d'Edgar Ilsenrath, « Le nazi et le barbier ». Voilà un écrivain qui maniera avec talent la langue allemande et l'impertinence, comme le relève Agathe Pain-Chomette dans la biographie qu'elle lui consacre et publiée aux éditions du Tripode. Cet antisémitisme, il lui échappe un temps en Roumanie, grâce à un climat plutôt serein qui règne dans la région de Bucovine, avec un vivre-ensemble chaleureux. Mais la pulsion inhumaine de destruction d'un peuple émerge avec Antonescu, le dirigeant roumain proche d'Hitler. Là, l'étau de haine se resserre avec les convois, les colonnes infinies, la population devenue haineuse. Lui, il veut devenir écrivain, Edgar. Et au fil des pages, nous retrouvons les témoignages de Norman Manea, Aaron Appenfeld, d'autres auteurs juifs. Il décrira la vie du ghetto dans un de ses livres aussi terribles, Nuit. Ah oui, un livre terrible. Il s'en sort et rêve du voyage en Palestine. Mais difficile pour lui de s'intégrer. Il se méfie aussi du nationalisme de certains. L'actualité que nous connaissons aujourd'hui est assez éclairante. C'est très intéressant de lire les débuts de l'État d'Israël. Et puis, retour en Europe, à Lyon, où il retrouve sa famille. Une démarche chez ses survivants. Comment peut-on vivre après cette horreur? Je cite l'auteur, « Nous ne parlions que de l'avenir ». Comment vivre après ses souffrances, ses visions? Il veut écrire, il découvre Erich Maria Remarque, il se souvient et écrit pour vivre. Je cite encore, « J'ai changé mes larmes en encre et tout écrit ». Il s'attelle à la discipline de l'écriture, 10 pages par jour. Il traverse l'Atlantique, vit de petits boulots à New York. Son frère, lui, s'intègre, mais Edgar écrit. Ses productions choquent, font scandale. En réalité, il y a peu d'empressement à accueillir les Juifs d'Europe aux États-Unis. Vous savez, le pays de la liberté et tout le numéro de cirque dont on nous abreuve régulièrement. Il écrira, par exemple, 20 versions de Nuit, son livre, là, Nuit. Et quand je dis, par exemple, c'est pour montrer le travail. Et il est difficile à diffuser, particulièrement en Europe, en Allemagne. Le ton du livre dérange, il est autre. Et ce sera encore plus net avec « Le nazi et le barbier », publié en 1971. La fin du livre est étonnante et le cynisme l'emporte sur la morale, vous lirez. Avec « Terminus Berlin », nous sommes dans l'après-guerre en Allemagne. La société ferme les yeux. Ça, on a déjà présenté des essais sur cette question, mais là, c'est un roman. Pourtant, il s'y installe dans ce pays et c'est vraiment ce qui le lance, un ton picaresque, qui se permet de l'humour noir. Il dénonce la liberté des génocidaires. Je cite, bon, « Ils se portent à merveille, les génocidaires. Ils vivent en liberté. Et Dieu et le monde les font bien rigoler. » Oui, et le mot « justice » aussi, d'ailleurs. Dire la vérité sur un tel ton dérange toujours. Difficile pour lui de dialoguer avec ses compatriotes. Il écrit, mais il a des difficultés à l'oral. Edgar n'est pas l'homme des compromis ni des angles arrondis. Il est tout entier et solitaire. Il aime se décrire comme à la marge. Et s'il subit en partie cet état de fait, il le soigne aussi, il le cultive. Tels sont les propos d'Agathe Pain-Chomette. Certains voient en lui un anarchiste. Peut-être, selon Agathe Pain-Chomette. Mais c'est en tout cas un vrai sceptique, un adepte de la distance en toute chose, et notons aussi son livre « Arménia », un lien évident avec un autre génocide odieux. Et nous avons parlé de ce génocide et de plusieurs ouvrages sur cette question dans de précédentes émissions d'Au fil des pages. Voilà une biographie à double intérêt. À la fois la découverte de la vie de cet auteur étonnant, mais aussi un parcours dans ses livres, une vie pour mieux comprendre ses livres et nous inviter à les lire. Agathe Pinchomette, Edgar Ilsenrath, La voix de l'impertinence, aux éditions Le Tripode, en 2026. Eh bien, passons au son des mots, avec la grâce de la nature, mais en même temps que je vous parle, vous écoutez certainement un chant d'oiseau. Eh bien oui, vous allez comprendre de quoi s'agit-il. Délicatesse, élégance, nature, dans le récent ouvrage de Rémi Huot, Scruter la grâce, publié par les éditions Le Mot et le Reste. J'avais déjà eu l'occasion de présenter du même auteur Journal d'une montagne. Il y observait la nature dans ses Pyrénées orientales où il réside, et sa formation d'ornithologue nous permettait de découvrir les mœurs des oiseaux, dont les vautours fauves, mais aussi des passereaux. Il poursuit son partage de la nature avec ses lecteurs au milieu des roseaux, au palmatin, ou lorsque le jour décline sur le marais. Promenez-vous dans ces zones humides là et vous entendez, vous voyez rien, vous voyez surtout vous voyez le marais, vous voyez les roseaux, puis vous entendez des chants. Et Rémi Huot écrit avec la nature, avec l'eau, les plantes, l'air. Je cite: mon écriture commence toujours dehors, dans l'air vif de la nature. Je trempe ma plume dans l'eau de l'étang et les nuages me servent de buvard. Les mots entrent, par effraction, dans ma chambre d'écriture, tombant subitement du ciel, bousculant les roseaux. Ils se couchent en phrases nerveuses sur le papier humide. Alors ils regardent, comme vous devez faire vous aussi, si vous voulez goûter la nature. Et je cite encore: en dehors de la beauté, la nature n'a aucun argument à faire valoir, aucune explication à donner. Il lui suffit d'exister, et à nous de l'admirer. La beauté est la marque permanente de la nature et de son secret. Le regard est fondamental chez Rémi Huot, et encore une citation: pour pénétrer la nature, je me sers du regard. Et avec sa paire de jumelles, il nous montre les bruants, les grues cendrées, les rouges-gorges, les panures à moustaches, les grèbes castagneux et quantité d'autres noms d'oiseaux. Et parfois, la simple mésange, mais est-elle si simple? Je cite: je fais une pause devant cet assortiment féerique de plumes bleues et de feuilles d'or. Ouais, c'est tout à fait une mésange, ça frétille, ça bouge beaucoup, une mésange. Et la mésange chante d'une petite voix d'automne qui réveille le cœur. Fin de citation. Comme Rémi Huot, je veux croire que dans la nature, tout est poétique. Et ce petit livre est comme un recueil de poèmes à lire dans le calme. Le monde s'accélère, il est de plus en plus trouble. Eh bien, écoutez, lisez une page chaque soir comme une potion apaisante. Et écoutons une dernière fois dans cette chronique l'auteur. Quand l'aube écarte de la main le rideau de la nuit, je suis toujours accompagné. C'est dire qu'un rien suffit. Tous les moyens sont bons pour se mettre aux ordres de la nature. Et ce matin, le remuement d'un merle dans une branche de cyprès a soulevé un nuage de pollen. Nous n'avons aucune raison d'abdiquer. La vie va jusqu'à la poussière. Fin de citation. Rémi Huot, Scruter la grâce, aux éditions Le Mot et le Reste, en 2026. Et puis, nous terminons notre parcours avec une partie qui s'appelle Roman de la vie, vous savez, dans notre émission. Et là, c'est un roman de la vie par Dominique qui nous présente le récent livre de Marie-Hélène Lafon.
Bonjour. Alors, nous allons présenter aujourd'hui Marie-Hélène Lafon, son dernier livre, Hors-Champ, publié chez Buchet-Chastel. Alors, nous avons déjà présenté plusieurs fois cette autrice, née à Aurillac en 1962, agrégée de lettres, titulaire de nombreux prix, dont le prix Renaudot en 2020. Elle a choisi d'être professeure en lycée, en collège plutôt. Elle est désormais à la retraite pour notre plus grand plaisir, car elle va sûrement écrire encore plus.
Mais c'est son 11e roman, je crois.
Oui, c'est le 11e roman de Marie-Hélène Lafont qui porte une fois de plus sur sa région d'origine, le Cantal, avec sa rivière, la Santoire. Le titre possède plusieurs sens. Il y a comme au cinéma ce qui n'est pas vu mais perçu, la difficile condition paysanne, mais aussi la fille qui quitte la ferme et qui devient donc hors champ. On pourrait dire que Madame Lafont aborde toujours le même thème, mais elle possède une telle capacité de renouvellement sur ce thème qu'elle fait à chaque fois œuvre de création.
Alors, que raconte ce livre ?
Alors, il raconte 50 années de la vie d'un frère, Gilles, et d'une sœur, Claire, en alternant leurs points de vue, toujours à la troisième personne. Les parents ne sont jamais nommés, c'est le père, homme violent et égoïste, qui a de la méchanceté en réserve, avec qui le fils se bat souvent, et la mère, qui est une femme passive. Claire est partie faire ses études et travailler à Paris, alors que Gilles est contraint par déterminisme social de reprendre la ferme. Il est assigné à la ferme alors que Claire est ailleurs, elle fait carrière dans l'enseignement. D'ailleurs, je précise, on fait carrière dans l'armée ou dans l'enseignement, mais on dit jamais que l'on fait carrière dans la paysannerie.
C'est vrai, on prend la suite.
Oui. Mmh. Lui reste sur la terre, fidèle aux bêtes, aux saisons, à une vie laborieuse, rythmée par le travail et le silence. Elle se consacre à l'écriture qui maintiendra le lien avec la ferme.
Mmh. Bah, c'est une belle description du monde rural,
oui.
En France,
oui. C'est un tableau de la rudesse de la condition paysanne, surtout dans les petites exploitations. Mmh. On voit Gilles évoluer dans les champs avec son tracteur ou dans le nettoyage de l'étable. Il y a un très beau passage sur la mort des veaux.
Et l'aspect sensuel est présent ?
Oui, alors c'est l'aspect sonore qui m'a frappée. Autant le silence règne à l'intérieur de la maison, car Gilles et sa mère sont des taiseux, autant nous entendons les bruits extérieurs. Le tracteur, les treilleuses, les vaches. Je vous cite quelques phrases. Elle écoute le remuement des bêtes, vaches et veaux, sous ses pieds dans l'étable que son frère devait être en train de nettoyer. Ou le babil de la Santoire coule dans la lumière du soir sous l'arceau des frênes. La bande-son de l'époque des fils, Claude François, Patrick Juvet, les autotamponneuses, la mère devant la télévision, les majorettes. On entend même le bruit des essorages de la machine à laver. Il y a aussi le goût de la cuisine de la mère qui fait des œufs à la neige, des tartes aux pruneaux et des patates sautées. Et Gilles boit beaucoup de sirop. Lafont évoque à un moment donné les tableaux représentant le monde rural et on s'imagine très bien Gilles évoluer dans ses œuvres. Courbet, Millet, Van Gogh, Boudin, Permec.
Ouais. Et c'est aussi la description d'un monde rural qui se défait, c'est classique chez Lafont.
Oui, Gilles incarne la permanence, la fidélité à un monde qui se défait lentement mais dont il porte encore la charge. La perte d'une vache est à chaque fois un drame. La perte d'une vache liée aux maladies, et on en a eu récemment. Le fils vit l'isolement, il ne se mariera jamais. Il a un ami qui se suicide. Il est fatigué et porte en lui le désespoir qu'il ne nomme jamais car il n'a pas les mots pour le dire. La sœur le sait et elle dit souvent à son frère, elle lui répète en le regardant dans les yeux, « Si un jour tu veux arrêter tout ça, tu peux compter sur moi. » Il ne comprend pas très bien ce que cela veut dire, ni ce qu'elle ferait. Mais il sait qu'elle n'a pas honte de lui et c'est déjà ça. Il faut obéir aux normes, demander des subventions à l'Union européenne. Brutalement, la coopérative arrête la fabrication du Saint-Nectaire et il faut trouver d'autres débouchés. La sœur veille sur lui de loin, avec une certaine culpabilité. Elle se tient comme une vigie. Elle revient de temps en temps pour un très court séjour, uniquement pour ne pas couper le pont. Mais on lui dit, sa mère notamment lui dit, tu ne peux pas comprendre le monde rural.
Ouais. Et le style est rude, hein, comme cette condition paysanne.
Oui, alors en peu de tableaux, 10 tableaux exactement, Lafont dépeint le monde paysan avec une économie de moyens extraordinaire à la limite de la sécheresse, un peu comme Faulkner.
Ouais.
Mais quelle intensité et quelle charge émotionnelle. Elle traduit bien le sentiment d'étouffement que l'on retrouve aussi chez un autre auteur, Franck Bouys. Je termine par cet extrait. Soigner les bêtes, fabriquer le Saint-Nectaire, entretenir les terres et les clôtures, faner, s'occuper des machines, des formalités, de la paperasse. La mère s'y est épuisée. Le père a continué à se débattre pour décider de tout. Ils ont tenu jusqu'en 2008. Depuis 2 ans, ils donnent le lait au laitier de Condat. On a toujours dit donner au lieu de vendre. Et c'est une défaite. Le père la vomit et la ressasse. La mère parle d'autre chose. Mais Claire comprend que l'honneur des parents est perdu.
Terrible, terrible livre.
Oui.
Et bien voilà, chers amis. J'espère que vous aurez envie de lire, que ces ouvrages alimentent votre réflexion, votre action. Ayez toujours le goût de la découverte. C'est fini pour aujourd'hui dans Au fil des pages sur Radio Libertaire. Merci pour votre écoute, votre fidélité depuis maintenant un bon paquet d'années. Et on se retrouve le mercredi 22 avril 2026 avec des surprises. D'ici là, bonne lecture et l'équipe d'Au fil des pages sur Radio Libertaire vous souhaite, ni Dieu ni maître, un bel idéal de vie. À bientôt et au plaisir de partager.
Savoir, voir, quoi qu'il n'y a se taire, air, quoi qu'il n'y a qui parle, arle, quoi qu'il n'y a manger, j'ai, quoi qu'il n'y a dormir, mire, quoi qu'il n'y a écrire, crire, quoi qu'il n'y a mourir, rire, quoi qu'il n'y a d'accord, corps, quoi qu'il n'y a pas d'accord, or, quoi qu'il n'y a je t'aime, même, quoi qu'il n'y a je t'adore, dors, quoi qu'il n'y a tais-toi, vois, quoi qu'il n'y a à boire, ouais, quoi qu'il n'y a ta gueule, quoi qu'il n'y a pensée, quoi qu'il n'y a pas gué, quoi qu'il n'y a cagué, quoi qu'il n'y a bouffé, fait, quoi qu'il n'y a soufflé, flé, quoi qu'il n'y a